Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va commencer avec une question ici à Kinshasa pour notre invité, pour M. Sambusi. Est-ce qu'il y a une question? Messieurs, dames? Oui? Allez-y. Sambusi.
Samuel. Ok. Je suis...
C'est Fabien, le prénom.
Je suis Nkiere Maï de l'Agence Congolaise de Presse. Vous avez parlé de à peu près 16 millions de Congolais qui sont dans la diaspora et qui renvoient, si je peux exprimer ça, presque 1 600 000 dollars.
Un milliard.
Milliard. Oui. Et pendant quelle période? Ses parents. Et ces milliards-là servent à quoi? Parce qu'on ne voit pas ce développement-là.
Oui. Non, ils servent à quoi? C'est bien là le cœur du problème et un des objets du support des discussions que nous avons à l'heure actuelle avec le gouvernement congolais. Cet argent-là va dans les transferts directs, pour la majeure partie, aux familles. Ils servent à couvrir les besoins immédiats, qu'on parle de santé, qu'on parle d'éducation, ou bien ils vont directement dans la consommation. Un des principaux, pas des principaux problèmes, mais une des principales opportunités que l'on voit, c'est comment essayer de faire en sorte que ces transferts d'argent-là n'aillent pas sur des dépenses journalières pour faire face à des problèmes journaliers que peuvent vivre les bénéficiaires de ces transferts d'argent-là, mais comment faire en sorte que l'on puisse l'investir. Et ceci passe par différentes actions qui sont, un, rétablir un dialogue entre les autorités congolaises et la diaspora de façon à déterminer un petit peu mieux les axes de priorité sur ce transfert d'argent-là, mais aussi de regarder le cadre légal, de savoir comment est-ce qu'on peut mieux encadrer, mieux guider et mieux aligner les priorités de la diaspora, mais aussi des migrants. Ça fait partie du travail à l'heure actuelle, mais il est vrai qu'une grosse partie de cet argent-là n'est pas investi. Et ce serait une aubaine pour le développement du pays.
On va commencer à Goma. Est-ce qu'on a des questions à Goma, s'il vous plaît? On vous écoute? Goma? Allô, on ne vous entend pas, Goma. Goma, s'il vous plaît. Bon, on va essayer Bukavu. Est-ce que vous êtes là?
Oui, Bukavu est en ligne.
Alors, on vous écoute.
Une question?
Voilà, je m'appelle José Moussol et je suis de la radio Yonda Ouzima. J'avais une question par rapport au rapatriement des aides de l'air à Kalonge. Je ne sais pas comment la MONUSCO s'est impliquée pour le rapatriement. Et nous apprenons qu'il y a certains aides de l'air qui vivent dans des conditions difficiles à Kalonge.
Oui, nous n'avons pas été associés à cette opération de rapatriement. C'est quelque chose qui a été géré directement par l'armée congolaise. Donc, au-delà du message que j'ai transmis du coordonnateur humanitaire, on encourage donc les autorités militaires et les autorités congolaises en général à garantir que les principes du droit humanitaire sont respectés dans le cadre de ces processus. Et à garantir de manière urgente, compte tenu du nombre de personnes qui ont perdu la vie dans le camp dû aux mauvaises conditions de vie et de détention, de garantir qu'une assistance humanitaire puisse être fournie. Mais c'est un processus, le processus de rapatriement, qui a été géré directement, sans notre implication, par les autorités congolaises. Une autre question à Bukavu?
Oui, il y a une question. Oui, moi c'est Dani Mandaju, je suis journaliste à la radio Kaouzi, ici à Bukavu. La MONUSCO est toujours accusée d'être derrière les aides FNALO à Beni. Bientôt le mandat de la MONUSCO va prendre fin. Est-ce qu'il y a une nouveauté dans le nouveau mandat? Il y aura une nouveauté?
Alors, je Le mandat, comme je vous l'ai dit, sera voté demain. Et nous, nous sommes directement guidés par le mandat qui nous est donné par le Conseil de sécurité. Alors le processus de définition d'un mandat et de renouvellement d'un mandat, c'est évidemment un processus auquel on contribue dans le cadre d'un dialogue avec les membres du Conseil de sécurité, mais c'est le Conseil de sécurité lui-même qui décide d'un éventuel changement ou de la définition des priorités de notre mandat. Ce que le secrétaire général ce sur quoi il a insisté dans son dernier rapport, c'est que effectivement, dans l'instabilité des conditions de sécurité qui subsistent dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri sont profondément préoccupantes. Que c'est au gouvernement de la République démocratique du Congo qu'il incombe au premier chef de parer à ces menaces. Mais que l'aider à le faire de manière globale par des moyens militaires autant que des moyens civils demeure une priorité pour la MONUSCO. Et les derniers faits survenus à Beni mettent en lumière le rôle central que continue à jouer le mandat de protection des civils de la mission que nous sommes engagés à exécuter d'une manière résolue et proactive en collaboration avec les autorités nationales, malgré évidemment tous les défis qui continuent d'exister. On fait un petit passage par Kinshasa. Madame, s'il vous plaît. Prenez le micro, s'il vous plaît. Merci.
Merci. Marie-Agnès Safi pour la RTNC Langue Nationale. Je parle toujours pour les cas de Beni. Quelles sont les pistes et les solutions que la MONUSCO envisage pour établir un climat de paix et de confiance avec la population de Nord Kivu, précisément Beni et Butembo, comme dans les jours passés? Merci.
Nous avons intensifié, d'un point de vue sécuritaire, nous avons intensifié les patrouilles, à la fois conjointes et des patrouilles de la brigade d'intervention de la MONUSCO et des patrouilles conjointes avec les militaires. Nous avons également envoyé un peloton supplémentaire de police également pour stabiliser la situation, plus particulièrement à Beni et ses alentours immédiats. Et on continue de travailler, comme je l'ai dit, à identifier les risques et les personnes, les complicités éventuelles qui existent dans les communautés et qui permettent que ces attaques continuent. Un des axes pour nous qui est très important, c'est que lorsque l'armée avance et lorsque l'armée libère, on va dire, une zone des ADF, il est important que lorsque l'armée se retire, cette zone ne soit pas immédiatement reprise par les ADF. Sinon, on continue sur un cercle vicieux qui ne permet pas de régler les solutions à long terme. Donc on travaille avec les FRDC, avec la police, avec les autorités pour que l'autorité de l'État avance. C'est un processus qui va prendre du temps, c'est pas un processus qui va être réalisé en deux semaines, mais de faire en sorte que l'autorité de l'État avance et qu'on puisse sécuriser réellement les zones qui ont été libérées suite aux opérations des FRDC. En matière de confiance, en matière de ce qu'on fait de dialogue civil, nous avons une section des affaires civiles qui travaille au plus près avec la société civile. Nous pensons évidemment qu'il y a une frustration, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, qui est légitime face à la poursuite de ces attaques. Mais nous pensons aussi qu'il y a des attentes qui sont parfois irréalistes au regard de ce que nous pouvons faire. Et nous voulons rappeler que nous avons besoin que la population soit engagée aussi avec ses forces de sécurité, avec les FRDC et avec la police. Vous avez vu de multiples appels qui ont été lancés par les forces de sécurité congolaises pour l'utilisation des mécanismes d'alerte, pour vraiment avoir la population aux côtés des opérations de sécurité. Et c'est un message que nous aussi nous lançons à la population. On va retenter Goma, si vous voulez bien, et après on revient à Kinshasa.
Merci beaucoup. Je suis Jackson Mutima, journaliste indépendant depuis la ville de Goma. Ma question est de savoir, parce que le lieutenant a dit que les manifestations de la population de Beni se sont estompées pour le moment. J'aimerais savoir quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour que la population puisse arrêter ces manifestations. Et qu'est-ce que vous allez faire pour maîtriser la confiance de la population pour que demain et ne puisse plus se venger contre la MONUSCO.
Nous, je me permets de prendre la question parce que je pense que les manifestations ne se sont pas estompées par une action quelconque de la MONUSCO. Ce qui nous semble, nous, important, c'est que les manifestations, comme l'a dit Jean-Pierre Lacroix quand il était ici, le secrétaire général adjoint, sont légitimes quand elles restent éloignées de la violence. Il nous semble qu'il y a il est important que chacun puisse exprimer son opinion, que chacun puisse exprimer son inquiétude et que chacun puisse manifester librement. En revanche, tout recours à la violence doit être condamné. Donc je pense qu'on va s'en tenir là pour l'instant. Une deuxième question à Goma. Non. On va essayer de revenir à Goma plus tard. On va reprendre une question ici, monsieur, à Kinshasa.
Merci beaucoup.
Ah. Oui, mais Bounia, j'essaye de faire du ping-pong et ma prochaine destination, c'était Bounia. Je ne vous oublie pas. Allez-y.
Merci beaucoup. C'est Ruben Boupiko, horizon 33. Que pense la MONUSCO sur l'état de, en ce qui concerne l'état des liens toujours de cette partie du pays à Béni principalement, où certaines ONG de la place souhaitent que le chef d'État puisse décréter un état d'urgence. Merci.
Bon, le décret d'un état d'urgence est une mesure qui relève du gouvernement, donc c'est pas quelque chose que nous pouvons commenter. Nous, ce qui nous semble, c'est qu'il est important que nous concentrions nos activités et nos ressources dans les zones où les graves problèmes d'insécurité persistent. Vous savez qu'il y a une absence de conflits armés, on va dire, à grande échelle dans plusieurs régions. D'ailleurs, la majorité des 26 provinces du Congo est stable. Et il y a une amélioration sensible, en tout cas une absence de conflits armés à grande échelle au Kasaï et au Tanganyika. Donc tout ça va nous permettre, d'envisager un retrait durable, responsable et progressif de la force de la MONUSCO et de pouvoir nous concentrer justement sur les poches d'insécurité qui subsistent. À Béni, c'est évidemment un grand sujet de préoccupation, mais aussi dans certaines zones du Sud Kivu et dans certaines zones de l'Ituri et du Petit Nord, du Nord Kivu. Et en parlant d'Ituri, je vais aller à Bounia, donc.
Merci Mathias, bonjour à tous et à toutes. Nous avons plusieurs questions ici à Bounia, je vais passer la parole à ma consoeur Eugénie.
Oui, Eugénie Balinda de la radio-télé Ituri Bounia. J'ai deux petites questions, dont la première est celle de savoir, la MONUSCO possède des drones de surveillance, mais comment expliquez-vous les attaques à répétition contre la population de Djougou? À quoi servent ces drones de surveillance? Et la deuxième question, c'est par rapport au risque d'infiltration des ADF de Nord Kivu vers l'Ituri. Quel est le plan de contingence que la MONUSCO a mis en place pour barrer la route à ces derniers en soutien de la FARDC, bien sûr?
Écoutez, sur la deuxième question, je pense que j'ai répondu lorsque j'ai évoqué cette visite conjointe du comité de sécurité Ituri et de la MONUSCO. Il y a des patrouilles conjointes qui vont être mises en place. Nous n'avons pas d'informations à ce stade sur des incursions, mais évidemment, on se tient prêt parce que l'idée n'est absolument pas de déplacer le problème, mais bien de le régler. Donc pour l'instant, c'est ce que je peux vous dire sur ce sujet. En ce qui concerne Djougou, je pense que nous avons, au mois de septembre, au mois d'octobre, lorsqu'il y a eu des affrontements extrêmement violents, nous continuons autour des bases où nous avons des civils qui viennent trouver refuge, notamment pour passer la nuit. Nous continuons à tenter à faire tout ce qui est notre pouvoir pour venir en aide aux populations. Nos collègues du HCR ont ouvert dernièrement un nouveau camp de déplacés afin d'améliorer les conditions de refuge et les conditions de vie des populations déplacées. Et nous avons aussi, par le biais des affaires civiles, organisé plusieurs rencontres avec des représentants communautaires de toutes les communautés qui sont impliquées dans les différents conflits, on va dire, qui ont touché la province et la région de Djougou, pour développer un dialogue. Parce qu'il est important de savoir que on peut faire un travail de protection, on peut faire un travail militaire, aussi inclusif soit-il, tant que les communautés elles-mêmes ne trouvent pas des points de réconciliation et n'arrivent pas à définir elles-mêmes comment elles peuvent améliorer leurs relations, le problème restera entier. Donc on essaye à la fois au niveau sécuritaire de répondre aux besoins les plus pressants et on soutient aussi les mécanismes de dialogue qui peuvent permettre, on l'espère, aux communautés de trouver un terrain d'entente et une manière de vivre ensemble paisiblement. Une deuxième question à Bounia?
Bien sûr que oui, c'est Claudel Lossa de la radio-télévision Lobico. Nous avons deux petites questions. La première, depuis quelques jours, les activités de la réponse contre la maladie à virus Ebola ont commencé à Biakato. Aurait pu à Biakato, voulais-je dire. À Nitori, bien sûr. Quelles sont les mesures sécuritaires que prévoit la MONUSCO et pour sécuriser ces agents qui travaillent dans cette réponse, car ils ont été des cibles des attaques des groupes armés? C'était la première question. La deuxième question, et on a vu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux et même dans des tweets et inciter la MONUSCO et parler mal de la MONUSCO et comme quoi la MONUSCO soutenait et les ADF et les autres groupes armés. Mais ces personnes-là passent librement sur les réseaux sociaux et sur la radio de la MONUSCO qui n'est autre que la radio Okapi. Et que prévoient, ou bien quelles sont les mesures que prévoient les SOFA qui régit la MONUSCO et par rapport à ces genres de personnes? Merci.
Merci. Alors, concernant Biakato, effectivement, il y a un plan d'action qui a été mis en place par la MONUSCO avec les agences qui travaillent sur la riposte Ebola. C'est principalement l'OMS, l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial. Un plan conjoint. Donc, ce qu'on a essayé de faire au plus vite après l'attaque qui a coûté la vie à des membres de la riposte Ebola congolais, du ministère de la Santé congolaise, on a mis en place un pont aérien entre Beni et Biakato pour faire en sorte que les activités ne soient pas complètement interrompues, puisque vous savez que quand on lutte contre Ebola, perdre un jour, deux jours, trois jours, c'est absolument dramatique, parce qu'on perd le traçage des contacts et ça peut entraîner de nouveaux cas. On a également augmenté le nombre de casques bleus sur place, ils sont plus d'une centaine à présent, et on a construit une base sécurisée à Biakato. Vous avez bien fait de souligner que les personnes qui ont été assassinées ont été délibérément ciblées. Donc on n'est pas dans un contexte où les humanitaires sont pris entre deux feux. On est dans un contexte où les humanitaires, les gens qui s'occupent de la riposte Ebola, ont été délibérément attaqués, ciblés. Et dans le même temps, ils ont également attaqué nos casques bleus tanzaniens pour les empêcher d'intervenir à temps lors de l'attaque contre le centre Ebola, contre l'endroit où les membres de la riposte Ebola passaient la nuit. Donc il est vraiment très important qu'on ait des structures opérationnelles et de coordination qui soient à même de fournir le soutien sécuritaire nécessaire. Et avec cette base sécurisée à Biakato, avec l'augmentation des casques bleus sur place, on espère que les activités pourront reprendre pleinement. Sur la deuxième question, le secrétaire général des Nations Unies a développé récemment une stratégie des luttes contre les discours de haine. Et c'est quelque chose sur lequel nous allons travailler également avec les autorités congolaises pour voir comment effectivement les médias sociaux peuvent ne pas devenir un lieu où la haine se déverse. Nous sommes inquiets, nous l'avons dit à plusieurs reprises, par le nombre d'informations fausses, de manipulations qui ont pu passer sur Twitter, des photos trafiquées, des vidéos qui ne concernent absolument pas le Congo, et qui ont été utilisées pour nourrir une colère contre la MONUSCO. Cela dit, les médias sociaux restent un espace de liberté démocratique et si les Congolais souhaitent l'utiliser, nous on a la peau dure, on peut écouter les critiques. En revanche, effectivement, les discours de haine sont inacceptables. Monsieur en bleu.
Merci, Mathias.
Merci.
Beaucoup plus. Oui, est-ce que ces gens peuvent continuer à passer sur les ondes de la radio Capi, quand bien même ils existent encore la MONUSCO?
Monsieur, les médias sont libres, l'expression est libre. Nous appelons chacun à la responsabilité dans l'expression de leurs opinions et à faire une distinction réelle entre opinion et appel à la haine. Merci.
Roger Marley, c'est pour le journal Eliman News. Monsieur Mathias Gilman, est-il possible pour la MONUSCO de convoquer une grande réunion internationale regroupant tous les leaders des mouvements rebelles et assaillants de l'Est de la République démocratique du Congo pour les sensibiliser à cesser toutes ces attaques, ces incursions en territoire congolais? Est-il possible pour la MONUSCO de convoquer une telle réunion?
Nous travaillons dans le cadre d'un mandat, encore une fois, qui nous est donné par le Conseil de sécurité. On peut envisager des mécanismes de dialogue avec certains groupes, mais il ne faut pas oublier que là où nous avions à l'époque, certainement il y a 20 ans et les années après, nous avions des groupes qui avaient un agenda politique et quelque chose à dire. Nous avons maintenant, la plupart des groupes sont des coupeurs de route, sont des brigands, sont des trafiquants, et il faut faire une distinction entre l'expression d'un combat politique qui a pu être légitime peut-être à un moment donné et des violences qui sont commises de manière aveugle sur la population dans le but de perpétuer une économie de guerre et des trafics. Donc je pense qu'il y a un dialogue qui peut avoir avec les personnes de bonne volonté, mais il y a une réponse sécuritaire évidemment forte qu'il faut continuer à mettre la pression sur les groupes armés. Madame.
Merci, c'est Mimi Chulouté de CCTV. Monsieur Mathias, on peut savoir le sort des agents de la MONUSCO qui ont quitté les lieux en cascade? Je parle de Beni, parce que la population de Beni les résistait, si ce n'est pas un secret, parce que les photos et les vidéos ont circulé, il y avait les agents de la MONUSCO qui prenaient les hélicoptères en cascade. Est-ce qu'on peut le savoir? Merci.
Il n'y a pas eu d'agents de la MONUSCO qui ont pris des hélicoptères en cascade. On aimerait bien avoir des cascades d'hélicoptères d'ailleurs, hein, mais vous savez, nos moyens ne sont pas si importants. Les personnes qui travaillaient à Boyekene, donc le bureau de la MONUSCO à Beni qui a été détruite, sont actuellement à Mavivi, c'est-à-dire à quelques kilomètres au nord de Beni, à côté de l'aéroport. Il n'y a pas eu d'évacuation et il n'y a pas eu de fuite par des cascades d'hélicoptères. Donc je vous remercie pour l'opportunité de rétablir ce fait. Monsieur Akoti.
Merci, Monsieur Mathias. Je suis Fred Mbwangi du journal La Tempête, Trinitas FM. Le chef de l'État avait soulevé lors de son discours sur l'état de la nation que la MONUSCO ne va pas encore quitter le sol congolais. Mais cette question a été beaucoup plus réclamée par certaines politiques et la population, parce que, quant à eux, la MONUSCO n'avait pas bien joué leur rôle. Est-ce que, s'il faut parler bilan de la MONUSCO, demain, cette question sera débattue lors du renouvellement de votre mandat. Le bilan de la MONUSCO, aujourd'hui, vous pouvez affirmer, il est positif ou négatif?
Je pense que c'est assez difficile de dire, il serait extrêmement prétentieux et pas réaliste de dire que tout était positif, et je pense qu'il serait injuste de dire que tout est négatif. Nous avons récupéré un pays il y a 20 ans quand les Nations Unies ont été déployées ici au Congo, qui était au bord de l'explosion, au bord de l'éclatement, et le fait que le pays existe aujourd'hui dans les frontières actuelles est en grande partie à mettre au crédit des Nations Unies. Il est de toute façon difficile de séparer les succès et les échecs de la MONUSCO des succès et des échecs de la République démocratique du Congo en tant que pays. Il y a aujourd'hui, donc à l'époque, encore une fois, nous avions de nombreuses armées étrangères qui étaient présentes et un pays au bord de l'éclatement. Aujourd'hui, nous avons 26 provinces qui sont, pour la plus grande majorité, qui connaissent une stabilité. On a encore des poches de violence armée, on a encore des endroits, comme à Beni, comme dans le sud Kivu, comme en Ituri, Madame l'évoquait autour de Djougou, des zones, des poches d'instabilité et de violence qui nous montrent qu'il y a encore du travail à faire. Donc évidemment, on est mobilisé pour finir ce travail. Mais encore il y a quelques années, je pense que je l'avais déjà dit, encore il y a quelques années, il y avait environ un tiers des territoires de la République démocratique du Congo qui connaissaient la violence armée. Aujourd'hui, on en est un peu moins de 10%. Donc on a un travail à finir et on va être mobilisé pour le finir. Et le mandat que va nous donner le Conseil de sécurité va nous guider pour finir ce travail. Mais je pense qu'effectivement, bon après ce sera aux historiens de faire le bilan de la présence des Nations Unies en République démocratique du Congo, mais je pense que notre bilan n'est ni 100% positif, ni 100% négatif. Pardon ? Oui, monsieur.
Merci Albert Omba, Numérica TV. Monsieur Fabien, vous parlez un peu de l'œuvre de l'Organisation internationale des migrations à faveur de la diaspora congolaise. Et vous connaissez la vie que mènent les Congolais dans plusieurs pays, surtout de l'Occident, face à leur établissement, surtout à l'obtention de documents importants. Est-ce que l'OIM préconise un peu de faciliter ces Congolais-là, les démarches dans l'obtention de leurs documents pour leur stabilité? Et l'OIM préconise-t-elle aussi la manière d'organiser toute la diaspora de façon à ce que leurs actions puissent aboutir à un crédit qui pourra aider la population locale ici?
Merci. Fabien, vous avez une minute pour répondre.
Merci. Très rapidement. On ne peut pas mettre toutes les diasporas dans le même, ou toutes les migrations dans le même panier, je dirais. Un des exemples ici, c'est un des rares migrants que vous avez autour de la table, c'est moi-même. La question est ce que nous essayons de promouvoir, c'est une migration qui est ordonnée et qui est régularisée. Autrement dit, il est de la prérogative des États qui reçoivent les migrants, les migrants réguliers, de leur fournir la protection. Le principal problème que vous mettez en évidence est la dérégularisation de la migration. Des gens qui vont en Afrique du Sud, par exemple, on l'a vu récemment, ou autres pays, par des voies informelles, sans documents de voyage. Et dans ce cas-là, ça devient très très compliqué, puisqu'ils ne rentrent pas dans un cadre légal. Donc ce que l'on essaye de faire, nous, c'est à un niveau global, d'essayer de rapprocher les États de façon à, pourquoi pas, faciliter, ordonner, justement, l'obtention de papiers, de documents de voyage. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très très important de souligner.
Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de belles fêtes. Merci. Belles fêtes à Bunia, Bukavu et Goma aussi. Merci de votre participation. Et on se retrouve en 2020.